très orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Dans un point de presse tenu à Lubumbashi le 3 janvier dernier, Moïse Katumbi, qui a rejoint l'opposition, a affirmé que des pourparlers sont amorcés pour avoir un candidat unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Entre-temps, certains observateurs estiment qu'au regard de la multiplicité des plateformes et regroupements politiques de l'opposition, dont le dernier est le Front Citoyen en 2016, cet objectif risque de ne pas être atteint. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Jean-Claude Tiala. Julie Feza Bongonda est au standard. Gilles Lungembo est à la coordination et à la réalisation. Pierrot et Lamé, je vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
C'était le 3 janvier dernier que Moïse Katumbi, qui a rejoint l'opposition, a affirmé que des pourparlers sont amorcés pour avoir un candidat unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Intervenant encore hier sur la chaîne France 24, il a proposé la tenue de primaire au sein de l'opposition pour désigner un candidat unique à la prochaine élection présidentielle, comme je venais de le dire. Mais plusieurs observateurs estiment qu'au regard de la multiplicité des plateformes et regroupements politiques de l'opposition, dont le dernier est le Front Citoyen 2016, qui regroupe aussi certaines organisations de la société civile, cet objectif risque de ne pas être atteint. Rappelons quand même que nous avons la dynamique de l'opposition au sein de laquelle Jean-Lucien Boussa, Gabriel Mokia et puis et Albert Moleka Nzulama et les autres ont mis en place le Front des démocrates. Rappelons d'un côté qu'il y a l'opposition républicaine qui regroupe des partis politiques autour du président du Sénat. Rappelons qu'il y a la nouvelle classe politique, c'est bien sûr toujours au sein de l'opposition, avec Steve Mbikayi, ceux qui soutiennent les dialogues et une autre coalition politique mise en place dernièrement avec Monsieur Mouchi Bonani, Azaria Sourberoi, Monsieur Bitakura, ils sont très nombreux. Voilà. Au regard de cette multiplicité de regroupements politiques au sein de l'opposition, plusieurs personnes pensent que ça sera difficile qu'en RDC, l'opposition se mette autour d'une personnalité de choix pour pouvoir affronter l'élection présidentielle. Comment y arriver? Nous avons associé à cet échange le professeur Emmanuel Banoué-Cizé, qui est directeur de l'école pour la gouvernance politique et compo de Lubumbashi, mais aussi professeur à l'université de Lubumbashi. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous intervenez dans cette émission en direct de Lubumbashi. Professeur, bonjour et meilleurs vœux.
Et bonjour Pierrot et meilleurs voeux également et bonne santé à tous les auditeurs des Radio Capi.
Nous allons revenir à vous le temps d'écouter quelques compatriotes qui se sont déjà inscrits pour cet échange pour Marcène qui cuite plusieurs messages aussi ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs Christian Alvin, Emmanuel Kadima, Dimbou Jimaï. Moïse Katumbi a raison, j'appuie totalement l'opposition à se réunir autour d'un candidat unique et les dialogues est un point majeur qui va régler tous les problèmes. Et pour moi, je pense qu'il serait mieux qu'aujourd'hui, les gens se joignent à Hissène Tshisekedi plusieurs fois, penser qu'il pouvait fédérer tout le monde tout autour de lui. Baby Gustave dit ceci, d'un côté, nous avons Hissène Tshisekedi à Mulumba, d'un côté, nous avons Moïse Katumbi, ces deux-là représentent la force de l'opposition, mais n'oubliez pas aussi que d'un côté, il y a plusieurs personnes. Alors, de quelle façon on peut arriver aujourd'hui à se fédérer autour d'une personne? Voilà la préoccupation de notre ami qui nous a écrit de Kikuit Arsène. Vous êtes à Kikuit dans cette ville, bien sûr, qui est de la province du Kulu. Bonjour et bienvenue, Arsène.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur. Je
Bonjour à tout le monde, les auditeurs de la radio Capi.
Moi,
à mon avis, il faut d'abord commencer par définir vos positions actuellement, parce qu'il y a la fronde qui s'est passée au niveau de la majorité présidentielle. Il y aura aussi des frondes comme ce que je suis vu aujourd'hui matin à la radio France Internationale avec l'UDPS. Tout ça, en tout cas, ça va donner une nouvelle lecture politique de la nation congolaise. Je crois que ceux qui se disent opposants doivent savoir définir leur opposition. Si on comprend bien, l'opposition en soi se définit par le programme de celui qui gouverne. Celui qui gouverne a fait un programme. Donc il a gouverné avec le programme de la révolution de la modernité. Ce programme a été contesté par un groupe de personnes qui s'appelle maintenant l'opposition. Actuellement, le président actuel est dans la fin de son mandat. À peine dans quelques 8 mois, il va terminer. Maintenant, aujourd'hui, nous devons chercher à définir. On s'oppose à quoi exactement? Est-ce que c'est en fonction du programme qui est à la fin, qui doit faire en quelque sorte un rapport, un compte rendu à la population de ce qu'il a fait avec son programme de fin de la révolution de la modernité. De notre côté, il y a l'opposition qui se présente vis-à-vis du programme actuel. Le programme actuel du président de la République, c'est un programme qui est axé sur le dialogue, un dialogue qui va entraîner peut-être une transition, un dialogue qui va entraîner peut-être des élections autant voulues par la Constitution. Donc jusque-là, un dialogue qui n'est pas encore défini. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne peut pas se définir par des personnes. On sait qu'il y a plusieurs opposants et il y a plusieurs leaderships dans l'opposition. Mais alors, s'il faut fédérer cette opposition derrière une seule personne, ça serait un peu difficile parce qu'il y a des visions différentes. Il y a Tshisekedi qui vient avec son dialogue, avec comme sous-bassement, les accords d'Addis Abeba, qui pour moi, aujourd'hui, est presque inopportun parce que les causes qui sont dedans ne sont plus de l'actualité. Si on devait revenir là-dessus, c'est en quelque sorte un coup d'État, selon ma compréhension. Alors, si on voit de l'autre côté, il y a Kabila qui propose le dialogue.
Arsène, la question autour des dialogues, nous en avons tellement évoqué. Aujourd'hui, la vision, c'est lui qui a proposé, il réfléchit en termes d'élection, parce que de toute façon, il faut quand même qu'il y ait élection. Il y aura élection présidentielle. Pensez-vous aujourd'hui qu'au regard de la multitude des visions, vous l'avez dit, on peut arriver à fédérer tout le monde de l'opposition autour d'un candidat qui peut porter toutes les aspirations de l'opposition à une élection présidentielle. Voilà un peu l'orientation aujourd'hui dans cet échange.
Ok, merci beaucoup. Je crois que la personne qui doit fédérer l'opposition doit être quelqu'un de solide, quelqu'un de sage, qui peut parvenir à fédérer toutes les forces de l'opposition tout autour de lui. Et cette personne-là, jusque-là, elle n'est pas encore visible. Il y a un de mes prédécesseurs qui a envoyé un message, qui a cité Tshisekedi, qui a cité Moïse Katumbi, il y a des autres, il y a par exemple Kamere aussi. Bon, cette personne-là doit s'entendre, ils doivent fédérer autour d'une seule personne et avoir une seule candidature. Parce que nous avons une élection à un tour. Donc, on n'aura pas deux tours, on aura un seul tour. Mais l'oiseau rare qui doit fédérer toutes ces forces de l'opposition ne peut être qu'un sage à qui on peut faire confiance.
Merci.
Parce que là, la population n'est pas encore définie derrière qui, mais on va voir avec l'avenir ce qu'on peut nous dire parmi ces leaders-là. Voilà un peu comment
c'est possible. Merci beaucoup, Arsène. Vous avez pensé que la personne qui peut fédérer l'ensemble de l'opposition doit être un sage, mais dans votre propos aussi, vous avez évoqué la définition du programme politique qui doit se faire autour d'un programme politique. D'ailleurs, nous avions reçu il y a quelques temps Monsieur Vital Kamere autour de cette question de la possibilité d'une candidature unique de l'opposition. Il avait évoqué depuis 2011 cette idée qu'avant de penser à un homme, il faut d'abord penser à un programme commun de l'opposition. Cela veut dire qu'il y a toute une tendance, toute vision, mettre les visions ensemble, définir un programme politique autour duquel maintenant on peut dire voilà la personne qui va porter ce programme politique. Mais pour le moment, vous pensez que la personne ne s'est pas encore définie. Merci beaucoup Arsène. Pierre Pascal, vous êtes à Kamina. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Pierrot, je suis Betou Pierre Pascal, j'appelle depuis Kamina dans la province du Olomani. J'ai salué l'idée de Moïse Katumbi d'avoir un candidat unique à la présidentielle de 2016. C'est vraiment très important, Monsieur Pierrot. Si l'on regarde un tout petit peu en arrière, vous allez remarquer que En 2006, il y a eu l'échec. L'opposition a échoué en 2006 parce qu'à cette période-là, Kabila était toujours au pouvoir. En 2011 également, on a organisé des élections dans ce même pays. Il y a eu encore échec du côté de l'opposition et Kabila a gagné encore les élections. Peu importe ce que les gens disent. Mais en 2016, ça doit nous interpeller tous parce que l'opposition doit savoir qu'en faisant les erreurs, on acquiert la sagesse. En 2011, ils sont allés par voies diverses et ils ont échoué. L'idée que Moïse vient de donner d'avoir un candidat unique à la présidentielle, c'est très important. Parce que Moïse, étant quelqu'un de la boîte, il sait ce que, étant quelqu'un qui était de la boîte, je m'excuse, il était dans la majorité, il sait comment fonctionne cette machine. Il sait comment la majorité envoie de faux opposants sur le terrain pour déranger le match de l'opposition afin que la majorité puisse emporter le pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition a intérêt d'écouter Moïse Katumbi et d'organiser la primaire pour choisir un candidat unique. Dans la primaire, là, chacun se présentera avec ses idées et ses idéologies. Et sur base de ces idées, les autres vont juger, ils vont voter un candidat qui va leur représenter aux élections. De cette façon-là, on peut s'attendre à quelque chose, parce que la mission de l'opposition, c'est pas seulement de s'opposer au Parlement, mais la mission de l'opposition est aussi de renverser le pouvoir, gagner le pouvoir et maintenir le pouvoir le plus longtemps possible, comme la majorité est en train de le faire aujourd'hui. Donc, l'opposition a intérêt de regarder tous dans la même direction, quel que soit Vital Kamerhe et quel que soit Moïse Katumbi et tous les autres là. Ils doivent s'entendre, se mettre autour d'une table, choisir quelqu'un qui va leur représenter à la prochaine législature présidentielle. Moi, je pense que de cette façon-là, on peut voir la carte changer, quitter la majorité et aller à l'opposition et les choses vont s'améliorer. Là où le régime de Kabila a échoué aujourd'hui, demain, le régime de celui qui viendra et va essayer de réparer ou de réussir cette option-là.
Merci beaucoup, Pierre Pascal. Vous avez souhaité que les gens regardent dans la même direction. C'est la seule voie pour arriver à assurer l'alternance dans le sens où l'opposition pourrait accéder au pouvoir. Mais quelque part, vous avez dit la mission de l'opposition, c'est renverser le pouvoir et conserver. Non, c'est accéder au pouvoir par de voies démocratiques, mais pas renverser. Peut-être les termes n'ont pas été bien placés. C'est accéder au pouvoir par des voies démocratiques et les conserver le plus longtemps possible, comme les politiques. Si elle le dit toujours, de conserver le plus longtemps possible. Mais pour y arriver, vous pensez que c'est la seule voie, c'est bien sûr se mettre d'accord autour au sein de l'opposition pour avoir une candidature unique. Merci. Nous avons Jean-Pierre Mandé qui nous a écrit de Wamba en province de Owele. Il dit ceci, avec une opposition qui fonctionne comme un panier à crabes, je me demande si à la fin de pourparlers autour d'une candidature unique, on n'aura pas encore la multiplicité de plateformes. Alain Moutombo dit, monsieur Moïse Katumbi a raison de proposer, parce que je ne vois pas comment l'opposition peut arriver à gagner l'élection présidentielle en présentant autant des candidatures. John Kamangou dit ceci, l'objectif est l'unique option pour une alternance envisageable dans les camps de l'opposition, si et seulement si elles se mettent tous ensemble et on met à côté les intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général des Congolais. Cependant, toutes ces plateformes n'ont qu'une seule intention actuellement, c'est les repositionnements politiques afin de s'attirer les leaderships au risque de créer l'ego, avec comme conséquence une acceptation d'être sous les ordres de quiconque. C'est ça le plus grand problème. Il y a notre ami Gaylor Pierre Malela, Antoine Roger, qui nous a écrit de New York aux États-Unis d'Amérique, qui dit ceci, la création des plateformes politiques n'est pas mauvaise, cependant, il essaie de se poser des questions quant à la crédibilité de ces regroupements politiques. Conséquence, l'on risque d'aider le régime en place de s'enraciner et de se pérenniser au pouvoir. Blaise Lungu dit ceci, les plateformes doivent être là pour que les primaires s'effacent et au finish, on aura un candidat. Il y a beaucoup de partis politiques au Congo, ne vous en faites pas. Les candidats de la majorité prochainement, en 2016, n'aura pas le même poids le président actuel qui a gagné deux fois les élections. Alors l'opposition peut en profiter, avoir une personne qui peut porter les aspirations à l'élection présidentielle. Marcus Bukasa, Gaston Galamoul, Mette Kananga, tous, ils encouragent l'opposition à se mettre autour de la table de discuter pour pouvoir trouver une personne bénin. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. chaud, monsieur Benoît.
On vous écoute. Alors, au regard de tous ces courants qui se créent au sein de l'opposition, bien sûr, avec des fois des objectifs différents, des fois même pour un même objectif, on a deux courants qui se créent. Pensez-vous que ça sera facile aujourd'hui, dans les prochains jours, de voir l'opposition se mettre autour d'une table et définir un programme autour derrière une seule personne qui peut porter les aspirations de l'opposition à l'élection présidentielle?
À mon humble avis, il est difficile, aussi longtemps que nous voyons des plateformes en groupe formées à gauche et à droite. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'on a une volonté acharnée d'accéder au pouvoir démocratiquement, cette volonté ne suffit pas. Ils doivent quand même aussi tirer l'exemple de la majorité. Vous voyez, à la majorité, il y a plein de compétences, mais ils ont tous mis l'eau dans les vins, comme on dit, et acceptent la seule présidente pour les deux mandatures comme leur chef. Alors, à l'opposition, c'est difficile de voir cet état de choses, parce que même les élections précédentes ont démontré qu'il y a conflit de leadership. Lorsqu'on a la volonté d'accéder au pouvoir, on ne voit pas qui a commencé, mais on se rassemble pour trouver un point commun. À l'opposition, il y a de capacités. Mais lorsque ces capacités ne sont pas unies et que chacun dans son coin croit qu'il peut accéder à la magistrature suprême avec des plateformes à gauche et à droite sans se faire une unité vraiment conséquente, je pense, comme les prédécesseurs ont dit, qu'ils sont en train d'organiser que la majorité conserve le pouvoir. Et puis ils sont un peu distraits à mon sens, monsieur le journaliste. Tous les opposants ont quand même une certaine lutte acharnée à la personne du président de la République, Joseph Kabila. Or, la majorité, dans sa sagesse politique, peut avoir déjà un candidat réservé à part, et à ce moment-là, ça serait une surprise parce que tout le monde de l'opposition est en train de braquer les yeux vers Kabila, il va violer la Constitution, il va se représenter. En politique, c'est pas seulement la Constitution, mais aussi, avant d'aboutir à la Constitution, ce sont les idées politiques qui donnent la Constitution. Donc l'opposition, pour moi, jusque-là, ne m'a pas convaincu, pas seulement moi, je pense, sans me tromper, qu'elle n'a pas encore convaincu toute la population congolaise qu'elle peut être une et briguer le mandat. Les critiques pas que nous suivons les prévisions. Il y a Moïse Katumbi qui est déjà là. Mais eux-mêmes à l'opposition, ils vont dire maintenant il vient d'arriver, il ne peut pas accéder, il a combien de députés, il n'a pas de parti. Tout ça là, ils sont en train d'aménager. Et moi, je suis maintenant d'accord que le pouvoir actuel, donc la majorité actuelle, pourra continuer sans Joseph Kabila comme ils pensent. Parce que quand ils sont toujours en train de... Voyez le plateau de télévision, s'il vous plaît. Il va briser le mandat. Non, il faut y avoir un candidat bien réservé. Et ça sera une surprise et qui pourra prouver même une maturité politique de l'opposition. Je voudrais conclure en disant qu'il est possible que l'opposition accède au pouvoir, mais à une seule condition. Voyez ce qui se passe actuellement. Il y en a qui veulent aller au dialogue, il y en a qui proposent la transition, il y en a qui disent non, le dialogue, c'est pas l'accord cadre, pas Kabila qui doit aimer ceci. Lui de pêche dit non, nous attendons le facilitateur. Tous ces éléments-là font croire aujourd'hui à la jeunesse congolaise que nous sommes, que l'opposition n'est pas organisée. Nos souhaits sont là, qui est alternatif comme tout le monde, mais il ne faut pas que, en voulant l'alternative, ils puissent aussi préparer l'absence de l'alternative.
Merci beaucoup Bénin, vous avez posé des éléments clés, hein. Vous dites, on regarde les choses, l'opposition risque d'être seulement focalisée sur le président Kabila en estimant qu'il faudrait qu'il quitte le pouvoir, mais aussi être constructée. En dernière minute, au niveau de la majorité, on présente un candidat et l'opposition là, elle est complètement surprise. Et à ce niveau, vous pensez que l'opposition devait déjà se mettre au travail, tout en se battant pour le respect de la Constitution, mais aussi se mettre au travail pour présenter le programme ou une candidature unique, mais dans ces conditions, ça risque d'être difficile. Mais vous avez évoqué toutes ces divergences autour des questions des dialogues, autour de celui qui a proposé. On se rappellera aussi, quand nous avons eu cette émission en 2011, il y avait beaucoup qui disaient, non, mais voilà, écoutez, Vital Kamerhe ne pouvait pas s'engager dans ces débats parce qu'il venait fraîchement de la majorité. Et vous avez peur que ce genre de considérations ne puisse amener l'opposition réellement à se mettre autour d'une seule candidature. Merci, Steve. Vous êtes à Béni. Mais il y a aussi Dati Mboukou qui nous a écrit, il dit ceci: en fait, pendant que l'opposition semble avoir une position commune au sujet du dialogue et des élections à venir, il y a l'UDPS qui estime qu'il faut les dialogues avec les médiateurs internationaux. Voilà, dans cette configuration, c'est ce que Béla disait tout à l'heure, qu'on n'a pas les mêmes point de vue. Il y a même une frange de l'opposition qui propose même une transition. Et là, il y a Jules qui dit ceci. Jusqu'à ce niveau, il est difficile que nous puissions faire confiance à l'opposition et la voir ainsi assurer l'alternance crédible dans ces différentes prises de position. Alors, il y a aussi James Awewesadi qui dit que le pays n'a plus besoin de beaucoup de discours, mais plutôt des réalisations. Faire des plateformes ou pas, la population n'est plus sur cette distraction politicienne, car ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi n'est pas la première personne à proposer ça. En 2011, on avait déjà fait les débats autour de cette question, mais ça n'a pas marché. Mwamba Mukongo, qui nous a écrit des Ouamas dans la province de Maniema, dit ceci, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que l'opposition fonctionne sur ses principes à Lingala qui dit « Omona wapi mbwa akaba mukua ». Voilà, les chiens n'ont jamais cédé un os, alors chacun veut avoir un os dans sa bouche. Et dans ces conditions, ça sera difficile de pouvoir le céder à quelqu'un d'autre. On va écouter tout à l'heure le professeur Emmanuel. Mais en attendant, le dernier auditeur de cette première partie, c'est Steve, qui est à Béni dans le Nord Kivu. Steve, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour, cher invité.
Voilà, on vous écoute, Steve.
Pour moi, je n'ai pas vraiment confiance à une telle opposition parce que quand on voit la RDC, d'abord, il y a un problème. Concernant d'abord aussi le système de la régionalité. Donc, on voit qu'il y a des régions qui sont qui se fédèrent autour de leurs candidats, il y a de l'Est, de Katanga. Donc, il y a un problème de régionalisme au Congo aussi qui est là. Alors, pour moi, je ne pense pas vraiment beaucoup sur cette vue qu'il y aura un candidat entre le Congo. Parce que, même en voyant, bien sûr, qu'il y a des divergences, comment déjà au niveau du dialogue, il y a le côté qui. Une opposition qui va participer au dialogue, l'autre non, il ne va pas participer au dialogue. Donc, pour moi, je ne compte pas vraiment les comptes. Le problème, c'est que moi, je voudrais, à ce qu'on puisse avoir une loi qui pourrait gérer une opposition, qui pourrait permettre aussi qu'on organise des préliminaires. Parce que même si on dit qu'on va organiser des préliminaires, mais ça sera financé par quel argent. Donc, c'est une sorte de problème. Donc, pour moi, je ne compte pas vraiment sur
C'est, c'est difficile pour vous. D'ailleurs, il y a déjà une loi, si on peut rappeler, la loi sur le statut de l'opposition existe déjà, d'ailleurs, qui a proposé même qu'on ait un porte-parole, un coordinateur de l'opposition. L'opposition ne s'est jamais mis d'accord autour de cette question depuis la loi a été votée et promulguée. L'opposition ne s'est jamais mis d'accord pour avoir un coordinateur ou un porte-parole comme cela est prévu au niveau de la loi. On a vu les blocages après avec le MLC qui pensait que le poste devait revenir à Jean-Pierre Bemba qui venait en deuxième position après les élections de 2006 et on a vu même des gens dire que non, voilà, c'est Bemba ou rien comme porte-parole de l'opposition, alors que Bemba détenu et ça a complètement bloqué. Une partie de l'opposition a accusé le président de l'Assemblée nationale et du Sénat de n'avoir pas convoqué la plénière pour la désignation du coordinateur ou porte-parole de l'opposition. Voilà un peu toutes ces questions. Mais vous avez aussi évoqué une question d'importance en parlant des régionalités des partis politiques. On a vu cette configuration où les partis ont tendance à être majoritaires dans les provinces d'origine de leurs fondateurs ou leur autorité morale, et comme on l'avait dit avec Professeur Mbouba dans cette émission, c'est là aussi partie de la conséquence des différentes mutualités qui se sont muées en partie politique à la sortie de l'indépendance. Merci beaucoup, Steve. 081-890-1315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Emmanuel Banoué-Cizé, merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes directeur de l'école pour la gouvernance politique et compo de Lubumbashi, mais aussi professeur à l'université de Lubumbashi. Vous avez suivi les différents points de vue des compatriotes qui sont sur Internet ou bien en direct dans cette émission. Eu égard à toute cette lecture de nos auditeurs, quel est votre point de vue par rapport à cette problématique?
Alors, merci Thiro et merci les auditeurs. Donc, j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Alors, ce que j'en tire comme leçon, c'est que d'abord, il se dégage que la plupart des intervenants pensent qu'il faut absolument qu'il y ait alternance en République démocratique du Congo, alternance politique. Donc, cela se dégage des différentes interventions. Donc, la nécessité ou les besoins d'alternance est clairement exprimé dans les différentes interventions. Cette alternance pouvoir se faire dans les deux sens. Soit l'opposition accès au pouvoir en se mettant d'accord sur un candidat unique qui porterait ses aspirations et qui permettrait d'opérer cette alternance-là, ou alors l'alternance se fait à l'intérieur de la majorité qui exerce actuellement les pouvoirs. Donc c'est la première leçon que j'en dégage. Mais j'ai noté également que pour la plupart des intervenants, ils sont sceptiques quant à pouvoir réunir l'opposition, quant à ce que les opposants se fédèrent autour d'une cause commune et qu'il propose un programme crédible et alternatif qui puisse permettre leur accession au pouvoir. Alors, je voudrais tout de suite dire d'abord en ce qui concerne ces réactions-là, et notamment rassurer ce qui disait qu'ils ne sont pas confiants à l'opposition. La crainte serait finalement de penser que puisque l'opposition est hétéroclite chez nous, l'opposition est disparate en République démocratique du Congo, qu'ils ne font pas en fait plaider pour l'alternance. Alors qu'en réalité, ce qui différencie une démocratie d'une tyrannie, d'une dictature, c'est l'alternance politique. C'est la possibilité pour les citoyens, pour les peuples, à pouvoir se choisir librement des dirigeants et à changer ses représentants pour être gouvernés autrement. Et alors, maintenant, est-ce qu'on doit déplorer aussi le caractère hétéroclite, la disparité de l'opposition en République démocratique du Congo? Je ne pense pas que ce soit un objet à polémiquer dans le contexte de notre pays, qui est un contexte d'une ethnocratie, parce que, en fait, disons-le, que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais nous sommes dans une ethnocratie qui est un système de gouvernance du territoire et des populations qui alterne les normes de la démocratie et l'allégeance à des réalités ethniques ou à des réalités ou à l'ethnicité jugée indépassable, et dans un contexte où il y a une vacuité idéologique, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, dans un contexte de vacuité idéologique, il n'y a pas d'idéologie vraiment portée par ceux qui sont au pouvoir ni par ceux qui sont dans l'opposition, et nous sommes également dans un contexte d'opportunité politique, disons d'opportunisme politique économique. On ne peut donc pas déplorer le fait que l'opposition soit dispersée. Mais je pense sincèrement que l'opposition congolaise, si elle veut vraiment réaliser l'alternance politique en République démocratique du Congo et participer à l'enracinement de la démocratie, parce que finalement l'alternance va permettre d'enraciner davantage la démocratie dans notre culture, ce qu'elle doit, et ça a été dégagé par les intervenants, et elle doit taire ses divergences et fixer un objectif précis. Et se fédérer autour de cet objectif-là. Or, il me semble qu'aujourd'hui, cet objectif, enfin, l'élément qui peut constituer l'objectif, ou deux éléments qui peuvent constituer les objectifs autour desquels l'opposition peut se fédérer, c'est notamment l'alternance politique. Parce que nous sommes dans un contexte où on va vers les élections, et ces élections permettent d'opérer une alternance. Donc, l'alternance politique se donne comme un objectif autour desquels les opposants peuvent se fédérer. Mais on n'opère pas seulement une alternance politique pour l'opérer. Il faut ensuite gérer l'État. Il faut gérer les territoires et les populations qui sont sur ces territoires et booster le développement de la République démocratique du Congo, engager les pays sur la voie de l'émergence. Et pour cela, il y a un deuxième objectif, c'est finalement d'élaborer un programme, c'est de proposer un programme de société crédible et alternatif qui soit mobilisateur des forces agissantes et des forces productives de la République démocratique du Congo, mais un programme qui rassure aussi les acteurs nationaux et les acteurs internationaux qui interviennent chez nous, c'est-à-dire à la fois les partenaires locaux et les partenaires internationaux. Je crois que si l'opposition arrive à proposer un programme alternatif, qui soit crédible, qui soit mobilisateur, parce qu'on peut se rendre compte, par exemple, qu'en 2011, en fait, les opposants majeurs, que ce soit Kamere ou que ce soit Étienne Tshisekedi, ils n'avaient pas de programme alternatif. Et cela fait défaut. Je pense que pour l'instant, il est clair qu'un objectif existe, c'est l'alternance, mais il faut un deuxième objectif, c'est d'avoir un programme qui soit crédible, qui soit alternatif.
Voilà, pour ça,
et si l'opposition arrive à mettre d'accord sur...
Oui, allez-y.
Et si l'opposition arrive à se mettre d'accord sur cela, je crois qu'à ce moment-là, ils peuvent en fait avoir deux éléments majeurs qui leur permettent de mobiliser les forces agissantes de la société congolaise, de mobiliser les forces productives, de rassurer les partenaires, parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander l'alternance, mais il faut aussi rassurer les acteurs, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, parce que notre pays n'est pas une monade. Nous sommes dans un contexte international. Mmh. Et ce contexte international fait que nous sommes nés dans un contexte international formalisé par l'acte général de Berlin. Et que nous avons des partenaires à la fois internationaux et nationaux. Il faut rassurer ces opérateurs économiques. Ah, le pays ne va pas sombrer dans...
Voilà. Alors, professeur, cette question au niveau du programme commun, je me rappelle encore en 2011, on a eu ces débats autour de cette question. Mais quand on regarde aujourd'hui la recomposition des plateformes et des regroupements politiques dans notre pays, que ce soit au sein de la majorité ou de l'opposition, en termes d'idéologie, on ne sait pas qui est de quel courant aujourd'hui. Vous avez des partis politiques qui se disent de gauche, mais qui en réalité ils travaillent avec la droite. Vous avez des partis qui se déclarent. Vous avez des libéraux, des socialistes, vous avez des fédéralistes qui sont avec des unitaires. Vous avez ceux qui se déclarent de la démocratie chrétienne qui se retrouvent avec des... Alors, dans cette confusion, comment, si même d'ailleurs au niveau des règlements politiques, on ne parvient pas à maîtriser sa propre idéologie, on ne parvient pas à maîtriser même son projet de société, pensez-vous vraiment qu'il y ait le temps que les gens se mettent autour d'une réflexion et sortent une idéologie commune, un programme commun, alors que déjà au niveau du parti, ça pose un véritable problème, professeur?
Oui, je venais de le signifier tout à l'heure. En fait, dans notre pays, nous sommes dans un chaos idéologique. Et ce chaos idéologique n'épargne pas les partis qui se disent qui sont de la majorité, que ce soit les partis de la majorité au pouvoir ou les partis de l'opposition. Ils sont tous frappés par ce contexte de chaos idéologique. Mais maintenant, je viens de le dire, c'est que les opposants doivent, s'ils veulent opérer l'alternance en République démocratique du Congo, ils doivent détruire de l'histoire. Bon, il semble qu'il y a une seule leçon que les hommes politiques tirent de l'histoire, c'est qu'ils ne retiennent rien de l'histoire, ce qui est dramatique. Mais je crois que la leçon que les opposants congolais devraient tirer de l'histoire, c'est que si l'alternance ne s'est pas opérée en 2011, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat unique qui devait porter leurs aspirations et qui devait incarner l'alternance. Quand on lit, par exemple, les rapports des forces en 2011, on se rend compte que ça s'est joué à quelques différences près, parce que normalement, il n'y a pas eu unanimité autour d'un candidat unique. Mm-hmm. Donc, ils doivent tirer les leçons de cela. Oui. Ils ne veulent pas perdre en 2011.
Voilà. En 2016, on va revenir à vous, professeur. Franck, vous êtes ici à Kinshasa, en voyage, bien sûr. Vous intervenez souvent de Vienne. Bonjour, Franck, et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les amis qui se sont déjà prononcés et ceux qui vont s'exprimer.
Alors, vous avez suivi toutes ces précisions, le professeur venait de les dire, il se dégage le souci réel de l'alternance, mais il lui reste maintenant à savoir quelle méthodologie, comment s'y prendre pour arriver vraiment à assurer l'alternance, que ce soit... Bon, parce que dans ces cas, c'est le cas de l'opposition, bien sûr, comment il peut arriver à assurer cette alternance.
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je suis avec intérêt le débat depuis le début. Je partage totalement les opinions des uns et des autres, surtout quand les profs parlent du chaos idéologique. C'est tout ce que nous avons ici comme problème en RDC. Mais je crois que les profs en intervenant se situent à un niveau scientifique très élevé, si bien que pour les non-avertis, ils peuvent avoir des difficultés pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Je crois que pas seulement chez nous, mais dans le monde entier, on doit être de la majorité ou de l'opposition à base d'un projet de société débattu et qui doit mettre tout le monde d'accord, et on ne peut pas l'être à base de sa propre visibilité. Oui, si on doit suivre les problèmes et les débats politiques de chez nous, je crois qu'on ne cessera jamais de le dire, il y a d'abord un problème de conception et de motivation pour faire de la politique. Ici, chez nous, on ne fait pas de la politique pour servir sa société, pour servir son pays, mais on fait de la politique chez nous parce que c'est pris simplement comme un métier. Et quand les uns et les autres se battent, ils ne se battent pas d'abord pour servir, mais ils se battent d'abord pour se servir. Et vous voyez déjà, à partir de cette conception, c'est difficile pour qu'on se mette un peu d'accord sur certains préalables. Monsieur le journaliste, si nous devons un peu voir l'histoire de l'opposition politique de notre pays depuis les années de la Conférence nationale souveraine. Mais cette opposition est partie de division en division. Vers les années de la Conférence nationale souveraine, il y avait les blocs de l'Union sacrée, et nous savons comment ces blocs s'est développé. Quand on devait aller à dialogue inter-congolais à Saint-Cyprien, nous savons tous comment nos opposants se sont comportés, et il y a seulement 5 ans, en 2011, lors des présidentielles, nous savons comment nos opposants se sont comportés. Moi, je crois que en intervenant, je respecte les opinions des uns des autres, et nous savons tous qu'au sein de notre opposition, il y a d'excellents penseurs, il y a des leaders d'opinion, il y a des têtes vraiment bien préparées. Mais le problème qui se pose là, c'est l'égoïsme, le radicalisme, le manque de confession qui fait que personne ne veut voir personne d'autre parler, quoi. Et depuis 2006, on parlait de la loi pour trouver un rapporteur de l'opposition. Nous sommes en 2016. Ça fait déjà 10 ans. Est-ce que vraiment il manque des gens au sein de l'opposition pour prendre cette responsabilité-là? C'est parce que personne ne veut céder cette place à personne. Et tant que ça va continuer comme ça, l'opposition sera divisée et affaiblie au profit de l'autre bloc, quoi. Il y a beaucoup de problèmes au sein de notre opposition. Et le plus grand problème, selon moi, c'est le manque de convictions politiciennes. On ne va pas en politique pour aller se servir, mais on va en politique pour aller servir. Et avant de servir, on doit arriver à dépasser certains intérêts du type personnel. Mais chez nous, les gens se battent plus pour leurs intérêts personnels. C'est pas pour ses intérêts, pour sa visibilité, et pour sa famille politique, pour son clan, pour sa région, et ainsi de suite. Et selon moi, le prof vient de parler du chaos idéologique. Moi, je l'explicite en d'autres mots, c'est par manque de conviction. Je ne vois pas M. Katumbi a parlé des primaires, c'est bien dit, mais là, je crois qu'il se réfère à ce qui se passe dans des pays vraiment organisés. Qui va l'écouter dans notre pays? Et vous avez bien dit, en 2011, quand Kamere voulait tenter tout cela, on lui a dit qu'il venait à peine d'arriver au sein de l'opposition. Et chez nous, les gens n'ont pas d'abord de culture politique. Quand on parle de la politique, il y en a qui pensent prendre l'opposition pour un bien personnel. Il y en a qui se disent, ils sont dans l'opposition depuis autant de décennies. Donc, quel que soit ce qu'il dit, même si ça ne tient pas debout, tout le monde doit se ranger derrière lui. Mais nous voyons dans d'autres pays, un peut venir aujourd'hui, mais s'il a vraiment des idées qui convainc tout le monde, on peut lui donner la place pour aller défendre les intérêts de la communauté. Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Moi, je crois que ce problème d'égoïsme, tant que ce n'est pas encore dépassé, ne nous aidera pas. Et je demande à tout le monde, à tous les politiciens de notre pays, de renoncer d'abord à l'égoïsme. Si ce pays ne marche pas, c'est parce qu'il y a aussi l'égoïsme à plusieurs niveaux.
Merci beaucoup, Franck. Quand vous avez évoqué les cas de manque de conviction, on peut bien le dire, on l'a vu plusieurs fois au sein de l'opposition, de la classe politique, mais si on parle bien de l'opposition, des divisions autour des termes, on l'a vu avec les concertations nationales, il y a beaucoup d'alliances qui ont volé en éclats, et puis il y a des gens qui se sont retrouvés dans le gouvernement, et puis toutes ces questions, la plupart des cas, les gens reviennent sur ça, c'est comme notre ami Jean Dédieu qui nous a écrit, il dit, c'est un problème tout simplement des maturités politiques. Tout détenteur ou président d'un parti politique pense qu'il peut être candidat président de la République, mais comment pensez-vous dans ces conditions on puisse avoir un candidat unique? Delphine Chikaï, Wakubula Isidore qui nous écrit des Kananga, il dit la multiplicité des plateformes n'est pas un problème, mais le problème aujourd'hui est-ce que la capacité de l'opposition à se mettre ensemble, à éviter les divisions pour n'importe quoi, sinon on va revivre le même scénario. Et Franck évoquait tout à l'heure l'égoïsme qui doit être banni si on veut vraiment voir l'opposition travailler d'une manière forte et assurer l'alternance. Patrice, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Patrice. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Bonjour M. Pierrot et bonjour à tous. C'est Patrick Mouli, Kassama depuis Lubumbashi. Donc, je voudrais tout simplement dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les camps de l'opposition laisse planer les doutes que demain, qu'il puisse avoir un seul candidat pour affronter les candidats de la majorité. Mais nous avons aussi suivi les propos du président Moïse Katumbi, et c'est bien de parler, mais c'est mieux d'agir. hein, c'est mieux d'agir. L'opposition aujourd'hui, sur ce qui se passe dans son camp, plusieurs plateformes, ainsi de suite, et moi je peux qualifier ça de tout simplement une crise de confiance mutuelle qui se passe là-bas, et je ne sais pas si demain on peut avoir un candidat unique pour l'opposition, afin d'affronter les candidats de la majorité. Voilà un peu ce que je voulais intervenir, ma contribution à l'élection.
Merci beaucoup, Patrice. Vous avez évoqué le cas de la crise des consciences mutuelles. Hein. C'est ce qui fait que beaucoup de gens multiplient des plateformes. Hein. Au sein même d'une même plateforme, vous avez encore un sous-groupe qui s'est créé. Et pour vous, tout ça, c'est sûr, c'est un problème de manque des. Il y a un problème de crise des consciences mutuelles. Eric Ololofondi dit ceci. Je suis d'avis que cela ne va jamais se concrétiser dans notre pays. Quand vous regardez même la manière dont les plateformes se créent, on n'a pas de termes différents de référence. Il y a des gens qui s'opposent même pour des petits termes au sein des structures. Alors ça sera difficile. Une opposition modérée et d'un côté vous avez une opposition extrémiste. Comment pensez-vous qu'il y ait dans ces cadres et que l'opposition modérée estime qu'elle peut composer avec le pouvoir, l'opposition extrémiste estime qu'elle ne peut jamais discuter avec le pouvoir, et dans ces conditions, je ne vois pas comment pourront-ils se mettre ensemble derrière quelqu'un. Alba Massimango dit ceci, la proposition du président Moïse Katumbi, bien, c'est bien, il est parti de la majorité, mais pensez-vous aujourd'hui que ceux de l'opposition puissent l'accueillir avec beaucoup de sincérité? On l'a vu du temps de 2011 où les anciens opposants estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à Vital Kamerhe. Cela va se reprendre encore avec les propositions de Moïse et des autres, ça sera difficile. Félicien, bonjour et bienvenue, vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute.
Alors, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité. Et moi je pense que chez nous la situation est plus complexe, et généralement en Afrique aussi, où on n'a vraiment pas la facilité d'identifier l'opposition. Et l'opposition chez nous au Congo, et vous avez des gens par exemple qui étaient avec Mobutu, par exemple, on leur a confisqué les biens, les pouvoirs, se mettre à l'opposition. C'est seulement ça, les comme projet de société. Et vous trouvez les gens qui ont travaillé avec le pouvoir actuel, et puisqu'à un moment donné, ils n'ont plus été occupés, et ils n'ont plus des fonctions, ils deviennent des opposants, alors qu'ils ont travaillé avec eux, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait en mal ou en bien, mais ils deviennent des opposants parce qu'ils ne mangent plus, ils ne sont plus aux mangeoires et tout ça. Et vous trouvez de l'autre côté l'opposition, par exemple, celle de Tshisekedi, qui est au moins chez l'opposition respectable depuis très longtemps, parce que lui au moins n'a jamais voulu tremper dans cette histoire pour son intérêt personnel, tant qu'il ne trouve pas les comptes pour le peuple. La SMP, c'est lui. Mais alors, quand on a une opposition comme celle-là, et qui, au départ, on ne connaît pas exactement quels sont les projets de société, parce que les projets de société, les opposants qui ont travaillé avec Kabila, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ils doivent dire peut-être qu'ils ont bien travaillé, Kabila a bien travaillé, et qu'ils veulent continuer ce qu'ils ont commencé avec Kabila. Mais ils ne peuvent pas dire que non, ils veulent remplacer Kabila parce qu'il a mal travaillé. Ouais, sinon, ça serait. C'est contredire. Et de l'autre, là, c'est fabriqué par vous, les journalistes. Et l'opposition se fabrique à la télévision. Des gens qui parlent, qui viennent raconter n'importe quoi, et ils se finissent donc devenir des opposants et créer des plateformes. Moi, je pense que nous devons devenir sérieux. Et dans ce pays, nous devons chercher à faire la différence. C'est-à-dire que quand il y a eu Mobutu, et Mobutu est parti, c'est qu'on a reproché à Mobutu, nous ne devions plus les retrouver aujourd'hui avec les régimes Kabila. Et ce qu'on reproche au régime Kabila aujourd'hui, on ne devra pas les retrouver demain avec celui qui va venir. Mais malheureusement, ce n'est pas l'État. Mm-hmm. C'est la politique de l'histoire que je me mets. Mais si c'est ça l'opposition, c'est chacun son tour, il veut passer au mangeoir, et ça va changer quoi dans ce pays. Nous avons besoin que les gens, d'abord, se purifient. C'est pourquoi nous demandons la commission de vérité et réconciliation. Là, les gens viennent dire ceux qui ont déjà travaillé. d'une manière ou d'une autre, dans, avec Mobutu, avec Mouzé, avec Abila, qui viennent confesser et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont travaillé. Et puis après, maintenant, nous verrons qui peut encore être candidat, qui ne peut pas l'être. Ce n'est pas la même personne. Ils vont, ils font mal, ils détruisent, ils volent, ils pillent. Et puis après, ils viennent encore, ils passent de l'autre côté, ils veulent être des candidats, et puis on vote encore pour eux, ils reviennent, et c'est un
de se retrouver dans les intérêts. Professeur Emmanuel Benoît-Cizé, vous avez suivi les uns et les autres cette question autour des idéologies, autour, Franck disait tout à l'heure, le problème des marques des convictions, le problème de l'égoïsme. Alors, à quel niveau doit-on aujourd'hui faire le travail pour aider à la classe politique congolaise à pouvoir cultiver ses idées, c'est l'idéologie, l'intérêt supérieur pour que cela puisse conduire même dans la création de partis politiques, dans la création de plateformes, mais aussi dans la lutte pour l'accession au pouvoir, professeur Emmanuel.
Alors, merci beaucoup. J'ai suivi les interventions des uns et des autres et je les trouve trop pertinentes. Enfin, ce que, d'ailleurs, j'y adhère totalement. Ce que je voulais relever et compléter, c'est que, au sujet justement des idéologies, j'ai pu comprendre que depuis un temps, il s'est développé chez nous et on a évoqué notamment la figure de Moïse Katumbi-Chapwe. En fait, il s'est développé comme on a évoqué aussi les figures de ceux qui sont, en fait, qui sont regroupés dans les G7 ou dans d'autres partis politiques comme l'UDPS et comme l'INC. Alors, il se dégage et il se développe depuis un certain temps chez nous l'idée selon laquelle il faut absolument sauvegarder la démocratie. Il faut sauver la démocratie et il faut éviter que le pays ne fasse marche arrière et que le pays ne refasse l'expérience de la dictature, parce que nous savons tous quelles auront été en fait les pertes, non seulement en vie humaine, mais aussi en termes de temps et en termes d'opportunités pour développer notre pays, d'un régime aussi dictatorial que celui en fait de Mobutu. Donc personne ne veut aujourd'hui rentrer vers ces régimes-là. Nous ne voulons pas que notre société, ou que nos enfants en tout cas, se battent plus tard pour sortir de la dictature. Il y a une idée donc qui s'est développée, qui s'échaînait, qu'il faut absolument sauvegarder la démocratie et qu'il faut respecter en fait les principes démocratiques que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Donc je crois que cette idée-là est une idée déjà fédératrice, elle réussit à fédérer. Mais il y a aussi l'idée qui fait son chemin, et c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de démocratie réellement s'il n'y a pas alternance politique au pouvoir. Et donc, s'il y a la répétition du même par le même, en fait, on est dans un semblant de démocratie et on n'est pas réellement dans une démocratie. Donc, une autre idée fait son chemin, et cette idée me semble être mobilisatrice aussi, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance politique. Et il n'y a pas non plus de démocratie sans l'existence d'un espace public où les gens peuvent débattre librement de la gestion de leur pays. Donc, on peut, à partir de là, identifier des idées fortes autour desquelles les hommes politiques peuvent se fédérer, peuvent défendre, parce qu'il s'agit de défendre l'objectif commun. Et je l'ai dit, cet objectif commun, dans les contextes actuels, me semble être l'alternance politique. Mais cette alternance politique doit être doublée d'un autre objectif beaucoup plus majeur, c'est la gestion de l'État autrement. Et on va gérer autrement pour développer autrement les pays. Je crois que si cette idée-là, donc, d'alternance, qui implique l'idée de l'enracinement, de la conservation de l'enracinement de la démocratie, et l'idée d'une gouvernance autrement pour développer notre pays, font chemin, ces deux idées-là, si elles font chemin, en fait, les opposants peuvent se les approprier et peuvent se fédérer autour de ça. Mais ce qu'on doit comprendre, il ne faudrait pas qu'on attende que tous les opposants ou tout ce qui se réclame opposants, en fait, se mettent ensemble. On peut, je crois, identifier, et ceux qui sont opposants le savent, ils peuvent identifier vraiment des plateformes majeures, des forces majeures, comme par exemple, je ne sais pas, les G7, l'UDPS, l'INC, et des forces de la société civile pour dégager un candidat qu'ils peuvent présenter. Ça doit être un candidat commun au regard du leadership qu'il incarne.
Alors, donc, rapidement, en une minute.
Qu'il soit populaire.
En une minute, professeur. Il y a deux auditeurs en ligne. Professeur, rapidement, tout à l'heure, il y a un compatriote qui venait d'écrire pour dire, mais quand vous regardez même les plateformes, quand elles s'écrivent, il n'y a pas des chartes, il n'y a pas un document de référence, c'est peut-être juste les points de presse et la déclaration, on se met autour, on signe un papier, un communiqué, et puis après on commence à fonctionner comme ça, à part les fonds citoyens en 2016, qui a quand même réuni les gens autour d'un texte qui devait être ratifié par certaines personnes. Rapidement, votre réaction en une seconde pour permettre aux autres d'intervenir afin de conclure cette émission.
Alors ma réaction en quelques secondes, c'est que d'abord ils sont pas, en fait, il faut faire table rase des plateformes qui naissent autour des communiqués à Kinshasa et qui n'ont pas emprise dans la société congolaise globale.
Mm-hmm.
Il faut donc identifier des plateformes, des forces qui ont une emprise dans la société réelle globale. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, dans les salons hyper climatisés, mais aussi dans les villages. Et c'est autour de ces forces-là qu'on doit absolument chercher une unité, un candidat commun, qui incarne un leadership nouveau, qui est populaire, mais qui a aussi la capacité de rassembler les Congolais, de garantir les intérêts des nationaux, mais aussi de rassurer les partenaires internationaux de notre pays. Je pense que c'est autour de ces forces qui ont vraiment emprise dans la société globale. Les opposants doivent se greffer, doivent se rassembler et non pas sur des déclarations
du salon
à Kinshasa dans les hôtels IP.
Merci. On écoute Joseph qui est en Bazangungu et honorable Michel Bello Yakipite. Joseph, vous êtes avec nous en une minute sur votre point de vue. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. C'est Joseph depuis Bazangungu.
Oui, on vous écoute, Joseph.
Ah oui, bon. En tout cas, j'ai souhaité bien l'idée de Moïse Katumbi d'avoir un seul candidat du côté opposition. C'est bien. Mais nous ne voulons pas voir les opposants d'hier comme lui-même Moïse et Vital Kamerhe, parce que c'est à peine hier qu'on les voyait danser à Singakati du côté ensemble avec les membres de l'opposition. Aujourd'hui, en tout cas, ça sera une...
Joseph, vous estimez que...
Dans les tapis rouges, à vous recevoir des honneurs, en tout cas, c'est vraiment...
Alors pour vous, Joseph, vous estimez, comme on le disait tout à l'heure, que pour vous, l'opposition, c'est pas ceux qui sont venus opposants hier, mais disons quand même que Vital Kamerhe n'est pas devenu opposant hier, ça fait quand même une législature qu'on lui avait adressé ces mots aussi, je me rappelle en 2011, les gens lui disaient, mais vous êtes un opposant d'hier. Alors vous aussi vous dites que non, mais là, Moïse Katumbi, l'idée est bonne, mais lui il est l'opposant d'hier. Pour vous, il faut des vieux opposants. Merci beaucoup, Joseph de Bazangungu. Honorable Michel Beloy, vous êtes député provincial à Kikwit. Vous avez suivi les uns et les autres votre point de vue dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, je suis plutôt à Bandundu, pas Kikwit. Je suis de la famille française de Maïndombe.
Okay.
Alors je voulais dire ceci, l'opposant qui est opposant et qui ne l'est pas. Et tous ces gens qui se disent opposants aujourd'hui ont été avec Kabila. Ils étaient avec le chef de l'État Kabila. Tous les projets de société, ils l'ont fait ensemble. Ils s'opposent contre qui? Contre le chef de l'État ou contre les institutions? Moi, je pense que s'il y a opposition, ils doivent tous se mettre ensemble et au niveau du Parlement, qu'on puisse remettre la structure le statut de l'opposition pour savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. Ça, c'est le tout premier. Au second lieu, actuellement, d'autres parlent de position où le petit Congolais a besoin de voir les institutions fonctionner. Moi, comme je dis, les assemblées provinciales aujourd'hui ne fonctionnent pas, sont bloquées par un individu. Ce sont des cas qu'on doit voir. Les restes là, l'opposition,
oui, mais si on veut, honorable Michel Beloy, si les institutions provinciales aujourd'hui, l'assemblée provinciale ne fonctionne pas, on se rend aussi compte que les députés provinciaux eux-mêmes se taisent. Vous dites qu'il faut dénoncer. Il faut quand même que vous, les députés provinciaux, vous puissiez vous battre à poser des questions pour savoir pourquoi vous ne fonctionnez pas. Mais dans l'ensemble du pays, c'est un calme plat. On dirait que les députés provinciaux... Mais quand vous évoquez le cas de l'opposition, vous estimez ce n'est pas parce qu'on était avec le président Kabila hier qu'on l'a quitté aujourd'hui, on devient opposant. Mais effectivement, c'est quoi? On s'oppose à une idéologie. Si on estime que, bon voilà, on ne peut plus marcher ensemble, les gens ne sont pas... Je crois bien dans l'histoire de ces pays, ceux qui sont opposants, vieux opposants, et les Tshisekedi, les autres manifestes de la CENI, quand ils se sont opposés effectivement à Mobutu, ils nous ont gérés ensemble après, ils nous ont dit voilà, nous devenons opposants parce qu'on ne peut plus marcher ensemble. Mais là, il faut quand même qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'opposition du genre uniquement parce que je ne mange pas avec toi et je deviens ton opposant, comme le disait tout à l'heure Félicien. Merci beaucoup, honorable Michel. Nous revenons à vous, professeur Emmanuel Banoué-Cizé. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, l'idée, c'est, comme vous l'avez dit, d'assurer l'alternance, mais d'avoir un programme crédible qui rassure pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est de cette façon qu'on peut faire confiance à l'opposition. Quels sont les quelques mots des conclusions pour cet échange?
Alors, ce que je peux dire, en fait, parce que je n'ai pas insisté davantage sur les programmes, je crois que les programmes que l'opposition devrait mettre en place et qui devraient être incarnés par un leader autour desquels ils se mettraient d'accord, en fait, il serait finalement pas le programme des normes, mais le programme d'une plateforme. En fait, ce programme doit être travaillé au regard, évidemment, des failles, des espoirs et des espérances, mais aussi des promesses non tenues par la gouvernance actuelle. C'est en tenant compte de ce qui a été dit, ce qui a été promis par la gouvernance actuelle et qui n'a pas été tenu, que ceux qui viennent d'alternance devraient construire un autre programme crédible. Mais ils doivent aller au-delà de ces failles, de ces espoirs ou de ces espérances déçues. Ils doivent montrer qu'ils veulent gouverner autrement, qu'ils veulent vraiment perpétrer la démocratie et qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à s'investir réellement pour engager notre pays sur la voie de l'émergence et de la reconstruction.
Merci beaucoup, professeur Emmanuel Banoué-Cizé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'école pour la gouvernance politique et Ecopo Lubumbashi et professeur à l'université de Lubumbashi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jean-Claude Siala a assuré la mise en onde de Gilles Longuembo, la réalisation et la coordination. Julie Fezabongonda a assuré les contacts avec vous, auditeurs et internautes. Pierrot et la Mégie vous la présenter sous la supervision de Martin Sebujangue. On retrouve parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Pour le moment, il nous reste à vous souhaiter d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Au revoir.
Il ne répond pas.